grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Le gastronome Bria Savarin écrivait qu'un dessert sans fromage était une belle à qui il manquait un œil. Et je dois bien l'avouer, pour votre humble serviteur, il manque quelque chose à un déjeuner ou un dîner sans fromage, de chèvre de préférence, un sentiment d'inachevé, d'incomplétude dans l'ordonnancement du repas. Bref, un seul fromage me manque et mon repas est dépeuplé. Comment expliquer cette histoire d'amour qui unit une grande majorité de Français à leur fromage? Nous verrons quelle est la différence entre un fromage au lait cru et un fromage pasteurisé, un fromage à pâte molle, à pâte pressée et à pâte persillée. Comment bien les choisir, hein, tous ces fromages? Comment composer un beau plateau? Et puis, quels sont les bienfaits du roquefort ou du picodon sur notre santé? Les intolérants au lactose doivent-ils s'en priver? Le fromage fait-il vraiment grossir? Avec nous pour nous éclairer, François Robin, meilleur ouvrier de France en crèmerie-fromagerie, Pauline Baudin, qui anime un blog sur le fromage, et Danielle Gerkens, directrice de Elle à table, notre complice ce matin, et bien sûr, comme tous les lundis, Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Et vous, dites-nous quel est votre fromage préféré et surtout, pourquoi il vous est peut-être impossible de vous en passer? Quelles sont vos recettes fétiches à base de fromage? Et si vous détestez ça, comme mon beau-frère Maxime, n'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Aline.
Écrivain à succès et médecin, vous nous proposez chaque semaine une médecine à visage humain dans votre chronique. Alors voilà.
Aujourd'hui, je vais donner le meilleur conseil du monde à tous les étudiants en soins qui nous écoutent.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Avec nous ce matin pour célébrer le fromage, François Robin, bonjour.
Bonjour.
Meilleur ouvrier de France en crèmerie-fromagerie, vous publiez chez First le fromage pour les nuls. Bonjour Pauline Baudin.
Bonjour.
Accro au fromage, vous animez le blog Say Cheese.
Absolument.
En français, ça veut dire quoi?
Vous avez dit fromage.
Danielle Gerkens, directrice de Elle à table.
Bonjour.
Comment ça va?
Très
Quelques
bien.
Quelques recettes, hein? Tout à l'heure en fin d'émission.
Hein?
Et puis, on évoquera avec vous les nouveaux modes de consommation du fromage. Alors, première question essentielle, François Robin. Comment êtes-vous tombé dans la marmite de fromage?
Sans doute un atavisme familial. Mon père était éleveur de chèvres et il faisait du fromage. Donc, fatalement, ça marque. Mon ADN est très marqué depuis l'enfance par des souvenirs, par exemple, de chèvres frais le matin avec une compote maison. Je pense que ça constituait l'essentiel de mon petit déjeuner. Et je crois même que ma mère a arrêté de m'allaiter. Puis, elle est passée au lait de chèvre directement.
Voilà. Pauline Baudin, votre histoire d'amour avec le fromage?
Moi, ma Madeleine de Proust, effectivement, elle est au fromage de chèvre puisque... Tous les goûters de mon enfance, c'était un petit chabichou sur une tartine de pain avec des origines vendéennes, forcément un peu de beurre aussi.
Avec un peu de miel dessus peut-être?
Non, nature.
Nature. Danielle Gerkens, votre histoire d'amour avec le fromage?
Alors moi, le fromage, c'était une histoire d'amour compliquée parce qu'on était en Afrique et on ne trouvait pas beaucoup de fromage là-bas. Et donc on repartait chaque année avec une à deux valises entières, 20 à 40 kilos de fromage qui était, alors je dois le dire, en grande partie congelé parce qu'il fallait quand même que ça vive le transport. Et donc on bourrait le congélateur en arrivant et on gérait cette espèce de réserve toute l'année.
Alors selon le Centre interprofessionnel de l'économie laitière, il y aurait en France en 2019 1200 fromages. Sommes-nous le pays du fromage? Même si l'Allemagne nous devance en termes de production.
Au niveau européen, oui, en termes de tonnage, on est derrière l'Allemagne. Après, compter les fromages, c'est difficile parce qu'on peut avoir 250 producteurs de 5 hectares fermiers et un fermier qui va produire 5 fromages différents. Donc, c'est une course à l'échalote un petit peu. C'est pas franchement possible de compter le nombre de fromages.
Mais quelle est la spécificité de la France par rapport à l'Allemagne, par exemple?
Alors, on a des terroirs qui sont beaucoup plus variés. On a des climats qui sont beaucoup plus variés. On va du Méditerranée aux très hautes montagnards, en passant par les bocages de l'Ouest, très arrosés, ce qui nous permet d'avoir des espèces différentes, donc vaches, brebis et chèvres. Et puis ça nous permet aussi d'avoir des affinages, des cultures, des savoir-faire très différents. L'Allemagne est un petit peu plus monolithique. Voilà, j'ai rien contre l'Allemagne, mais c'est un peu
plus
monolithique.
Quel gros cliché, François.
Ouais, j'en suis désolé, mais
alors,
c'est la réalité.
Je pensais que nous étions les plus gros consommateurs de fromage au monde. Eh ben non, ce sont les pays scandinaves qui nous coiffent au poteau.
Oui, notamment parce qu'on considère, si on prend l'Islande hein, par exemple, on considère le skyr comme un fromage. Le skyr, c'est un fromage blanc un peu égoutté. Donc c'est comme si nous, on se mettait à rajouter le yaourt dans nos statistiques. On reste dans le tiercé de tête, je pense.
Voilà. Daniel Jerkens.
Oui, oui, tout à fait. Mais les pays du Nord, effectivement, ne consomment pas le même type de fromage que nous. Dans, pour ce qui me semble, c'est beaucoup de fromages qui sont plus industriels. Et il y a par contre dans les pays du Nord, je pense là aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à la Suède, en fait, ils mangent des fromages à tous les repas, quasiment. Donc effectivement, au global, ça donne des chiffres bien plus élevés que nous. Mais je pense qu'en termes de qualité, on est nettement au-dessus.
D'où vient le mot fromage, François Robin ?
Ça vient d'un mot qui est celui de la forme. Ça a donné forme, fourme, formaggio en italien, désolé pour mon accent, fromage. Après, il y a deux autres racines, il y a sir, skir, sirene, tout ça on est sur les pays de l'Est. Et puis la troisième racine qu'on rencontre, c'est caseus, c'est un mot latin qui a donné cheese, queso, queijo et autres.
Alors faire du fromage, c'est relativement simple. J'ai récemment fabriqué du labneh, hein, ce fromage frais libanais à base de yaourt grec. En revanche, faire du bon fromage, c'est une autre histoire.
Et les anciens rajoutent à cette très bonne maxime, savoir pourquoi il a été bon, c'est encore plus dur. Il y a quelque chose d'empirique sur la fabrication du fromage qui fait que même à des très grands techniciens ne sont pas sûrs à tous les coups de réussir, tout simplement parce que le lait varie chaque jour. Et un vigneron va travailler des raisins une fois par an, un fromager va travailler du lait deux fois par jour, qui va être différent. Donc c'est très simple de faire du fromage, mais faire du bon fromage, c'est plus compliqué. Oui.
D'ailleurs, c'est intéressant de voir ces derniers temps se développer la vente de kits de fromage. Oui. Par exemple, chez Nature et Découverte, on voit des dizaines de kits maintenant fromagés. Il y a des ateliers qui se développent, même dans des villes comme Paris, pour apprendre à faire sa mozzarella, etc. Il y a vraiment, j'ai l'impression, une espèce d'intérêt général sur d'où vient le fromage et comment on l'a préparé.
Oui, c'est vrai. Alors après, je ne sais pas si on le fait vraiment au quotidien, parce que faire un fromage frais, c'est assez simple. Hein. La recette est connue, maîtrisée depuis très longtemps. Le rendre bon, c'est très ludique. Avec les enfants, c'est super. Et puis, il y a un côté do it yourself qui est très sympa. Après, je pense qu'il y en a une bonne partie qui retourne chez les crémiers fromagers quand même, parce que le goût est un peu là. Sans vouloir...
Quels sont les grands principes de la fabrication du fromage ?
On prend du lait, on rajoute des ferments lactiques, c'est-à-dire de la vie. C'est important, la vie dans le fromage. Et on va rajouter un coagulant qui peut être d'origine animale, ça s'appelle la présure, ou d'origine synthétique, ou éventuellement d'origine végétale. Ça va rendre le lait solide, et ensuite on l'égoutte. C'est le fait d'égoutter ce caillé qui fait le fromage, en fait, par définition, et puis concrètement. Voilà, c'est une recette très simple. Et ensuite, on fait plein de choses. On peut presser ce caillé, on peut le mettre à égoutter, on peut brosser les fromages plus tard, on peut laver, on peut implanter des formes de vie. À partir de cette même matière primaire qu'est le lait, on peut faire énormément de choses.
Quelle est la différence entre un fromage au lait cru et un fromage au lait pasteurisé ?
Ça, c'est une question que je vais essayer de faire simple. Le lait cru, c'est le lait tel qu'il est. C'est un petit peu une position un petit peu d'accepter la nature telle qu'elle nous vient. Le lait pasteurisé, c'est une destruction des flores pathogènes, des choses qu'on ne voudrait pas voir, qui peuvent rendre concrètement des gens malades. Et puis, on va rajouter de la vie dedans, quand même. Ce qui est important, à penser sur le lait pasteurisé, que c'est pas un lait qui est mort. Il est mort, effectivement, à la sortie de la pasteurisation, mais derrière, si on veut faire un bon fromage, on est obligé de remettre de la vie dedans. La pasteurisation aussi, elle a des fondements de santé publique, il y a très longtemps. C'était pour éviter des épidémies de brucellose, hein, par exemple, qui étaient assez fréquentes dans les campagnes. Donc, elle a des fondements intéressants. Après, il est vrai qu'on peut penser que les fromages, on peut penser et déguster que les fromages au lait cru sont plus riches, plus complexes, mais moins stables. Au niveau goût que les fromages au lait pasteurisés.
Pauline Baudin.
Oui, moi la différence, enfin en tout cas pour répondre à la question, quelle est la différence pour moi, c'est le goût principalement. On fait souvent le parallèle du fromage avec le vin. Et c'est vrai que les fromages vivants, les fromages au lait cru, il n'y a pas cette constance dans le temps, mais comme en fait on va trouver chez un vigneron, en fonction des différents de ces différentes récoltes, des vins qui vont être le reflet du terroir à un moment T. Donc pour moi, c'est le goût.
C'est quoi exactement un fromage affiné, François Robin ? Alors, ça veut dire quoi, affiner un fromage ?
C'est un art magique.
Expliquez-nous.
C'est quelque chose d'incroyable. Alors, c'est amener un fromage qui est toujours très neutre en goût, très léger, très lacté au départ. N'importe quel fromage, même ce qui va être un grand comté, quand on le goûte à la sortie de cuve, c'est très très léger, et l'amener à son pic, l'amener à une complexité, l'amener à une richesse. C'est l'élevage, on parlait des vignerons par exemple, c'est l'art de certains de sécher des produits ou de les affiner plus loin. Alors c'est un art de l'invisible, puisqu'il faut surtout pas voir arriver certaines choses, et c'est là où je dis que c'est de la magie, c'est qu'on peut pas mettre tout ça dans des tableaux Excel, qui a les cinq sens qui travaillent chez un affineur, et il y a quelque chose de peut-être non quantifiable, d'empirique, heureusement. Et c'est important, notamment sur les fromages de lait cru, il y a des choses qui apparaissent ou qui n'apparaissent pas.
Par exemple,
des flores, c'est des petites surfaces. Alors des fois, ça va pigmenter en rouge, et quand on demande à un affineur, il dit je sais pas bien pourquoi, mais c'est bien qu'elle soit là, celle-là. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du magique. Ouais, j'aime bien.
Pauline Baudin.
Oui, et je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans des caves d'affinage, mais c'est effectivement un moment hors du temps et qui reflète un peu cette magie d'être complètement coupé du monde et centré sur le produit. Les odeurs sont très très importantes dans ces caves d'affinage, que ce soit l'odeur des fromages qui vieillissent, mais aussi l'odeur souvent des planches d'épicéa qui leur permettent d'avoir le goût qu'on adore.
Daniel Jerkens, vous en avez visité des caves d'affinage.
Moi, j'en ai visité plusieurs. Le dernier très beau souvenir que j'ai, c'était une toute petite cave d'affinage d'un producteur de tomes de brebis à Saint-Martin-de-Belleville. Et en fait, c'est une espèce de toute petite cave qui est creusée dans la montagne à côté de sa maison. Donc, il y a une paroi de pierre et il y avait des grandes étagères toute la longueur avec des tomes de brebis qui avaient toutes quasiment des formes différentes. Sur certaines, il y avait 1 à 2 centimètres presque de velours qui poussait, avec une odeur à la fois d'humidité et de quelque chose de presque un peu animal. Et quand j'en avais discuté avec lui, il m'a dit « Bah oui, je sais pas du tout pourquoi certains poussent mieux que d'autres. » C'est sans doute la flore locale qui n'était pas non plus définissable. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre presque de la magie là-dedans. Ouais.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Moi, quand vous dites ça, je pense au microbiote qui doit être ravi de voir toute cette flore bactérienne
là,
arriver.
Là, je pense qu'il est dans un festival.
Baptiste Beaulieu.
Oui, mais je me demande si l'acidité gastrique, elle ne détruit pas justement les bonnes bactéries que peuvent nous apporter les fromages que nous consommons, quoi.
C'est une excellente question à laquelle je ne suis pas capable de répondre. Je n'ai pas la... Hein, voilà.
Moi, j'ai un médecin qui m'a dit, parce que je lui posais la question, il m'a dit, mais vous savez, un certain nombre des bactéries que vous consommez sont résistantes, notamment à l'acide chlorhydrique, je crois que c'est ça. Et donc, en fait, comme elles sont résistantes à ces milieux acides, elles peuvent... Entre guillemets, surnager, survivre jusqu'au bout.
Autour de la table, quel est votre fromage fétiche, préféré? C'est une question extrêmement difficile. François Robin.
Ça dépend de la saison et de mon humeur. Voilà.
En ce moment,
c'est le retour des chèvres. On est en pleine saison les mises bas sont passées. On a des chèvres qui sont magnifiques. Certaines sont déjà sorties en pâturage. Donc, on a toute cette flore qui va enrichir, qui va donner un lait gras. Et même si les effinages sont pas très poussés, c'est le plaisir du printemps. D'ailleurs, il y a quelques petites recettes. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais des choses intéressantes avec le chèvre.
Pauline Baudin.
Impossible de répondre à cette question pour ma part. En revanche, j'ai une grande affection pour les fromages fermiers. C'est-à-dire qui sont produits, voilà.
Aline Perraudin.
Moi, j'ai une affection pour le crottin de Chavignol, que j'adore, depuis que je suis toute petite.
Daniel Jerkens.
Alors moi, j'irai à genoux, jusqu'en Auvergne, pour un excellent Saint-Nectaire fermier, fait avec les laits de printemps. Voilà, et sinon je suis une dingue des brebis.
François Robin, à propos des chèvres, est-ce qu'il est normal de retrouver des chèvres tout au long de l'année, en supermarché notamment?
Alors oui, tout à fait. Enfin, il est normal. Pour faire face à la demande, même si le cycle de production théoriquement commence en fin janvier, ça dépend des régions, jusqu'à peu près octobre, on arrive à décaler les naissances de manière à avoir du lait un petit peu lissé sur toute l'année. Il y a plusieurs méthodes, certaines plus ou moins embêtantes pour les chèvres, mais on y arrive plutôt bien en ce moment et ça s'améliore.
Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir et qu'on a peu tendance à connaître. Il y a une saison, en fait, des fromages. Et on ne peut pas manger tout type de fromage tout au long de l'année.
Allez, quel est votre fromage préféré? Quelles sont vos bonnes recettes à base de fromage? Dites-nous également si vous n'aimez pas ça du tout. Au 01 45 24 7000. Alexia Rivière, Claire Destacan et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Nicolas Bove. Et c'est réalisé par David Le Prince.
Indochine, l'aventurier.
Alors Paul, qu'est-ce que je te sers?
Cheddar.
Grand bien vous fasse.
Non, camembert.
Sur France Inter.
10h24 et ce matin nous attendons toutes vos questions sur le fromage, vos recettes, votre histoire d'amour avec ce produit souvent addictif au 01 45 24 7000 et sur la page Facebook de Grand bien vous fasse.
Alors celui que je mange le plus souvent, c'est le parmesan. C'est un fromage qui convient au plat de tous les jours, les pâtes, le risotto, etc.
J'ai une étiquette comme quoi je mange du fromage dans la famille.
Après, quand on est vraiment amateur, c'est avec un verre de vin en fin de repas. Et puis sur des fromages un peu corsés, avec du caractère.
Rien qu'à l'odeur, je trouve que ça pue et du coup ça me donne pas du tout envie d'en manger.
Comme je vais rarement au-delà de l'odeur, je peux pas trop vous parler du goût.
Alors le Saint-Mauré ça déclenche moins de dégoût que le reste des fromages parce que ça a pas trop de goût le Saint-Mauré. Je suis exclue des soirées raclette avec mes amis.
En fait la règle pour moi c'est plus c'est fort meilleur c'est, jusqu'à la limite où y a des vivants à l'intérieur. Ça j'arrive pas.
Propos recueillis dans les rues de Paris par Nicolas Beauve. Alors François Robin, je rappelle que vous êtes meilleur ouvrier de France en crèmerie fromagerie et que vous publiez Le fromage pour les nuls. Question qu'un enfant de 8-10 ans pourrait vous poser, d'où viennent les fortes odeurs du fromage? Et question annexe, pourquoi y a-t-il parfois une différence entre l'odeur très forte et le goût moins prononcé?
Alors les différentes odeurs, c'est des molécules qui se forment parce que il se passe des choses sur le croûtage, la vie agit. La vie est là, c'est la vie qui fait le goût. Hein. Sans vie, il y aura pas de goût. Et il y a parfois des odeurs qui, selon notre culture, peuvent être considérées comme nauséabondes ou extrêmement agréables. C'est vraiment une question de référentiel. Hein. Il suffit, par exemple, de prendre un fruit asiatique qui s'appelle le durian, qui est un petit peu difficile pour tout le monde. Hein. Je vois que ça crée c'est une mélange comme de l'ail chaud, de l'ananas et du camembert, on va dire, hein, cette odeur-là. Culturellement, nous, en Europe, on a de la peine. Quand on amène un roquefort en Asie, cette peine, elle est équivalente. Donc, on est vraiment dans le domaine culturel. Et par contre, pourquoi souvent, il faut aller un petit peu au-delà, contrairement à ce que disait l'auditeur, là, c'est intéressant, il faut aller au-delà de l'odeur de la croûte du fromage, parce qu'à l'intérieur, en général, la pâte est moins puissante. Il ne s'est pas passé la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Alors, j'ai fait un sondage avec l'Institut du Doigt Mouillé dans les Alpes ce week-end, et le dégoût du fromage provient souvent de la forte odeur. C'est ce que me disait mon beau-frère ce week-end. Il me disait, c'est l'odeur du fromage qui provoque ce dégoût. C'est pas en soi le goût, mais c'est vraiment l'odeur, Pauline Baudin.
Moi, je trouve que cette odeur-là, elle est... Elle invite au voyage, donc ça me donne envie de goûter.
Daniel Jerkens.
Effectivement, il y a des odeurs qui peuvent être extrêmement, extrêmement fortes. Et je pense qu'on est dans une société où on est de moins en moins en phase avec les odeurs très fortes. Que ce soit nos odeurs corporelles, que ce soit les odeurs au sens large, on essaie toujours de masquer et de mettre des odeurs synthétiques en fait à la place. Donc je pense qu'effectivement le fromage qui a des parfums extrêmement puissants, parfois, pas toujours, et comme le disait votre invité, on peut se retrouver avec des fromages qui ont des parfums très forts. Je pense par exemple au Livaro, je me souviens un jour d'avoir oublié 2 Livaro dans le coffre d'une voiture, d'une voiture des parents de mon petit copain de l'époque, un été, et voilà, la voiture a eu du mal à s'en remettre, les parents aussi d'ailleurs.
Et vous êtes quittés.
Mais moi, quelques temps plus tard. Mais ceci étant, j'ai toujours été frappée de voir à quel point l'intérieur dans l'Ivaro était doux, par exemple, avec un extérieur extrêmement puissant.
Bonjour Claude, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes bretonne, vous, hein?
Oui, moi je suis bretonne, et je suis... Merci de prendre ma question, parce que ça fait 25 ans qu'avec mon mari, on se pose la même question et qu'on la pose à tous les fromagers qu'on rencontre. Il n'y a pas de fromage en Bretagne. Mon mari est auvergnat, donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. On mange pas mal de fromage à la maison. Et quand j'ai connu mon mari, il m'avait emmené dans un supermarché acheter du fromage à Clermont-Ferrand. Et ils avaient été suffoqués de voir qu'il y avait... il fallait prendre un ticket comme à la sécurité sociale pour être servi. Et les gens achetaient des fromages, mais dans des proportions qui me semblaient ahurissantes. Et bon, moi, j'adore le fromage, c'est familial de toute façon, mais... Mais en fait, ça fait 25 ans qu'on dit, mais où va-t-on trouver cette réponse? La Bretagne produit du lait, comme la Normandie, et c'est une des seules régions où on fait ce qu'on appelle du gros lait, c'est grosso modo du yaourt, on fait beaucoup de beurre, mais on ne fait pas de fromage.
Excellente question, Claude, et François Robin vous répond.
Alors c'est une excellente question, j'espère que vous ne passerez pas 25 ans de plus sans avoir la réponse, désolé. C'est très difficile de répondre, j'ai passé 7 ans à étudier la question, tous les jours. Non, j'arrive pas à l'expliquer moi non plus, on a la présence de lait, effectivement. Alors pas dans les quantités qu'on connaît aujourd'hui, hein. Historiquement il y a sans doute beaucoup moins. Il y a la présence de monastères par exemple, il y a du sel, il y a tout ce qu'il faut pour faire du fromage. Et alors, je ne sais pas, est-ce que la Bretagne est plus tournée vers la mer? Est-ce qu'ils ont plus passé de temps à faire du gros lait, donc avec le lait écrémé, la crème servant à faire le beurre, ou du gouel aujourd'hui, ces choses comme ça. C'est très difficile de dire pourquoi historiquement il n'y a pas cette explosion de fromage comme partout ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, ça y est, ça commence à venir. Là, ça peut vous rassurer. Il y a des fromagers qui se lancent et il y a des très bons fromages bretons qui commencent à surgir. Donc l'avenir est radieux.
Qui peut répondre à Claude, Daniel Gerkens?
Aucune idée. Bon. Aucune idée. Et c'est vrai que c'est troublant parce que la Normandie déborde de fromage, les Pays de Loire débordent de fromage et Charente, je crois, juste au sud également. Donc je ne sais pas.
Claude,
sais pas du tout.
Nous allons continuer à percer le mystère.
Merci.
À bientôt, merci. Alors, quels sont les différents types de fromage, François Robin? Fromage frais, les pâtes molles, les pâtes pressées, les pâtes persillées, les fromages fondus. On peut essayer d'y voir un peu plus clair?
Oui, alors on peut essayer de tirer une petite huitaine de familles. Les fromages frais, les fromages à pâtes molles à croûte naturelle ou à croûte lavée, les pâtes pressées cuites, les pâtes pressées non cuites, les pâtes persillées, puis après les pâtes filées, qu'on a peu en France, hein, historiquement. Mais la mozzarella di bufala campana, ça vous doit vous dire quelque chose. Alors ce sont des grandes techniques générales, hein, on pourrait le classer autrement, on aurait 25 à 30 familles. Bon, on va faire simple. Globalement, il y a des étapes clés à chaque fois. Le lavage de la croûte pour les croûtes lavées, le fait qu'il y ait une vie naturelle qui se développe sous une forme un peu fleurie dans les croûtes fleuries, le pressage pour les pâtes pressées non cuites et la cuisson du caillé pour les pâtes pressées cuites. Quant aux pâtes persillées, la vie est à l'intérieur, ce sont des moisissures qui sont à l'intérieur, des moisissures nobles.
Qu'est-ce qui différencie les fromages au lait de vache et les fromages de chèvre et de brebis? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale, Pauline Baudin?
Alors, il y a la taille des fromages, déjà, si on regarde uniquement la forme, le fait que les vaches aient plus de lait en termes de quantité que les chèvres ou les brebis, ça a naturellement fait des fromages qui ont des tailles différentes et donc qui vont avoir des goûts très différents, en plus, effectivement, d'un lait différent. Donc ça, c'est un des premiers éléments de réponse qu'on peut apporter.
François Robin.
Il y a aussi la richesse des laits en termes de matière grasse, notamment sur les brebis. Si vous aimez tant les brebis, c'est peut-être parce que le lait est presque deux fois plus gras et qu'il y a cette onctuosité.
Je confesse un amour immodéré pour le gras.
Alors bon, hein, moi, vous comprendrez plus tard que je ne me positionne pas sur le gras. Le gras, c'est le goût. Le gras, c'est la vie, comme dit ce philosophe Caradoc. Le lait de brebis est très particulier. Et donne quelque chose de très réconfortant, un petit peu plus que le lait de vache, mais ça dépend encore des techniques. Donc ça, c'est vraiment une question de technique de transformation après. Hein.
Alors moi j'ai entendu dire aussi, vous allez peut-être pouvoir me répondre François Romain, que les laits de chèvre et de brebis étaient également des laits dans lesquels il pouvait y avoir plus de saveur et qui étaient plus intéressants d'un point de vue santé éventuellement que certains laits de vache, parce qu'il y avait plus de vaches qui étaient nourries non pas uniquement au foin, ou à l'herbe, mais avec des tourteaux de soja, des ajouts de matière qui ne sont pas aussi intéressants gustativement.
Alors là, c'est au cas par cas. Ça va dépendre des pratiques des fermiers, donc c'est difficile de faire des généralités. Il y a des modes d'élevage qui peuvent... De toute façon, le mode d'élevage, l'alimentation, a un effet sur le lait, ça c'est évident. Et si on veut faire un lait de qualité, il faut avoir une nourriture de qualité, y compris une nourriture qui soit la plus naturelle possible. Oui. La naturalité de ces animaux-là, c'est d'aller manger de l'herbe, bien évidemment. Déjà, le foin, c'est un petit peu moins bien. Et les compléments, c'est pas forcément l'idéal, ça c'est clair.
Pauline Baudin.
Et c'est pour ça qu'on va pouvoir trouver un fromage identique qui va avoir des saveurs complètement différentes en fonction de s'il est fait avec un lait d'hiver ou s'il est fait avec un lait d'été, puisque les pâturages n'auront évidemment pas été du tout les mêmes.
Baptiste Beaulieu.
Juste une question. On a un certain nombre de fromages en France. Est-ce qu'on invente des nouveaux fromages? Ou est-ce que tout a déjà été dit en matière de fromage?
Ah non, non, ça continue de créer. D'accord. Et fort heureusement. Poussé un petit peu par ce qui se passe dans
goûts,
le monde.
Tout ça.
Oui, ouais. Tout à fait. On est vraiment poussé par ce qui se passe dans le monde entier, en fait. Il y a une frénésie fromagère qui s'empare de la planète. Ça, c'est tout à fait vrai. Et ça nous pousse un petit peu en dehors de nos traditions et de nos retranchements. Donc on continue à créer. Et c'est très important. J'ai un confrère qui dit qu'il faut toujours avoir une tradition d'avance. Et il a raison.
Daniel Gerkens.
Oui, on voit apparaître beaucoup de mouvements autour du fromage. C'est-à-dire qu'on voit apparaître connaître en France énormément de jeunes fromagers qui se lancent et qui rouvrent des crèmeries, y compris dans des toutes petites villes. Et ça, c'est quelque chose qui avait quasiment disparu dans les années 90. On voit des restaurants de fromage s'ouvrir. On voit des fromages, des tendances sur les fromages étrangers, par exemple les fromages anglais qui commencent à avoir beaucoup de développement. On voit se développer des modes de consommation, c'est-à-dire par exemple de plus en plus de Français consomment à l'apéritif, pas uniquement dans le repas. On voit d'ailleurs dans les supermarchés arriver de nouvelles variétés, de nouvelles formes de fromage, c'est-à-dire du fromage en tranche, du fromage en boule, du fromage en copeaux. Enfin voilà, on voit vraiment toute une activité autour de cet univers.
Bonjour docteur Arnaud Cocol.
Bonjour Ali.
Bienvenue, vous êtes médecin nutritionniste. Alors, question simple, quelles sont les principales qualités nutritionnelles du fromage ?
Bah, le fromage, c'est déjà un concentré de calcium. Vous savez qu'on parle beaucoup de prendre du calcium. Donc le fromage vous en propose. En particulier, les fromages à pâte pressée cuite dont on faisait allusion tout à l'heure, qui sont extrêmement riches parce que on arrive à peu près une teneur de 1000 mg pour 100 g de calcium. Donc ce qui en fait vraiment, donc on peut citer les mentales, par exemple le comté, vous voyez, qui en font vraiment des concentrés de calcium très intéressants. Et il y a également des protéines. Les protéines, donc c'est une source de protéines. En particulier quand on vieillit, on a plus besoin de protéines pour lutter contre la perte musculaire. Donc les apports calciques sous forme de fromage avec les apports protéiques sont intéressants.
D'un point de vue nutritionnel, est-ce que les fromages de chèvre et de brebis sont meilleurs pour la santé que les fromages au lait de vache ? On sait que dans la diète méditerranéenne, on recommande plutôt de consommer des chèvres ou des brebis.
Oui, parce qu'on faisait allusion tout à l'heure au type d'acide gras, et en particulier les acides gras insaturés qui composent en fait les fromages de brebis et les fromages de chèvre. Donc dans la diète méditerranéenne, vous savez qu'on encourage en fait la propagation en fait de ces types d'acides gras qui sont différents des acides gras saturés sur lesquels on exagère dans notre westernisation alimentaire. Donc pour aller vers le côté méditerranéen, plutôt du fromage de brebis, plutôt du fromage de chèvre, en rappelant quand même que c'est une source quand même importante de sel, donc il faut être quand même pondéré. Et il y a des études qui montrent également le pouvoir antioxydant des fromages de chèvre en particulier.
Alors Jean-Paul nous dit pourquoi les fromages sont-ils aussi salés, François Robin ?
Pour la conservation, principalement, l'histoire du fromage, c'est que c'est une conserve de lait, le sel a toujours eu ce rôle-là. Après, c'est un exhausteur de goût aussi. Ça sert à drainer l'eau qui est dans le fromage, le petit lait, pardon. Et puis, ça sert à sélectionner un petit peu les fleurs qui viennent s'installer. Alors, par contre, il y a quelques fausses idées, parfois, sur les quantités de sel dans les fromages. Si le Roquefort est effectivement relativement salé, on est presque à 3% de sel. Un comté se situe plutôt aux alentours de 1,2%. Donc, c'est beaucoup moins, par exemple, qu'un camembert de Normandie.
Arnaud Cocol, on évite le fromage quand on est hyper tendu ?
Non, j'irai pas jusque-là, mais un bon conseil, ça serait de manger du fromage avec de la salade, par exemple, ou des grappes de raisin, vous savez, comme dans certains restaurants, c'est ce que je conseille, pour avoir d'un côté un apport de sel, certes, qui doit être limité, mais contrôlé, et avec un apport de potassium. Donc, si vous apportez du potassium sous forme de fruits ou de légumes, c'est-à-dire la salade, votre fromage sera beaucoup plus intéressant au point de vue nutritionnel et le calcium sera mieux assimilé d'ailleurs.
Docteur...
Généralement, on le prend avec du pain quand même.
malheureusement, les Français sont attachés au pain et c'est pas forcément la meilleure composition nutritionnelle.
Docteur Arnaud Cocol, question fondamentale. Doit-on bannir les fromages quand on souhaite perdre du poids ?
Non, je suis contre les diktats alimentaires qui sont pourvoyeurs de troubles du comportement alimentaire épouvantables. Donc, en aucun cas, j'interdirai à quelqu'un qui aime le fromage de se séparer de cette vertu alimentaire. Donc, simplement, c'est toujours les portions. Il faut être raisonnable dans nos portions. Donc, les portions raisonnées, c'est 30 grammes, 40 grammes en maximum. Ou un plateau de fromage, vous prenez des portions de 20 grammes à peu près, vous voyez, pour composer votre palette de fromage. Mais voilà, il est hors de question de manger 100 grammes à un repas.
Vous me soulagez, Arnaud Cocol. Aline Perraudin de Santé Magazine, est-ce que les intolérants au lactose doivent se priver de fromage ?
Mais en fait, non, ça c'est encore une idée reçue. Beaucoup d'intolérants au lactose pensent qu'ils ne peuvent pas manger de fromage, alors que c'est faux. Alors, faut bien expliquer le lactose, c'est le sucre présent dans le lait, et les personnes qui sont intolérantes au lactose, bien, n'ont pas assez de lactase, l'enzyme qui permet de le digérer. Le lactose reste fermente dans le côlon et ça donne des troubles digestifs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas dans les fromages qui sont affinés, notamment longuement affinés, il n'y en a quasiment plus. Alors par exemple, c'est le parmesan, le comté, le beaufort, l'emmental, le gouda, la mimolette, vous en trouvez presque plus. Les fromages à pâte mi-dure en contiennent un peu, mais très très peu, et les fromages de brebis et de chèvre sont généralement aussi bien tolérés. Il faut faire attention en revanche, alors là, avec les fromages qui sont riches en lactose, ce sont principalement les fromages frais à tartiner et les fromages blancs au lait de vache.
Arnaud Cocolle, est-ce que vous recommandez des petits déjeuners salés à base de fromage pour éviter les pics de glycémie en fin de matinée?
Moi, je trouve que ça peut être très intéressant. Alors, on voit de toutes sortes de patients, vous savez, en consultation. J'ai un patient qui se prend le matin un steak, hein, donc et ça ne lui pose aucun problème. Vous allez en Thaïlande, on va vous servir des soupes de poulet. Donc, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit quand on est médecin, et on voit toutes sortes de choses. Donc, il faut aller abonder dans le sens du patient. C'est comme ça que vous faites alliance thérapeutique avec lui.
Qui est adepte de petits déjeuners salés autour de la table? Oui, François Robin.
Ah, oui, oui, du fromage tous les matins. Oui. Ouais.
Merci beaucoup, docteur Arnaud Cocolle, d'avoir participé à l'émission. Allez, il est temps de retrouver la chronique, alors voilà, de notre romancier médecin, Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Ouais, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, chaque semaine dans votre chronique, alors voilà, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Oui, ce matin, j'ai voulu vous rédiger une petite chronique légère et je me suis souvenu combien le métier de soignant est propice à de grands, très, très grands moments de solitude. Pas plus tard que la semaine dernière, je prends la carte vitale d'un patient et en voyant la photo dessus, j'ai dit un truc du genre « Tiens, c'est la carte de votre maman, vous êtes encore sur sa carte à 32 ans ?» Et le patient m'a regardé et il répond « Non, c'est ma carte et ma photo, c'est juste j'ai eu une période un peu difficile sur le plan capillaire. » Bref, j'aurais mieux fait de me taire ou, comme disait ma grand-mère, de compter mes doigts dans mon coin. Bref, il y a eu cette fois aussi où, alors que j'étais tout jeune externe en médecine, j'ai demandé à l'accompagnatrice d'une patiente « Mais vous êtes la maman ?» Et l'accompagnatrice s'est tournée vers moi et a lâché du bout des lèvres « Non, non, c'est juste une copine. » Avant d'ajouter « Vexée comme un pou, et nous avons le même âge, elle et moi. » Évidemment, j'aurais pu arrêter là les dégâts, sauf qu'en pensant à arranger les choses, j'ai creusé ma tombe puisque je me suis tourné vers la patiente et j'ai ajouté « Mais vous faites vraiment très jeune, madame. » Une autre fois, un homme vient avec une jeune fille en consultation et au détour de la discussion, je lui dis combien lui et sa fille se ressemblent. Évidemment, ce n'était pas sa fille, c'était sa femme. Bref, de tout cela, il se dégage une ligne directrice fondamentale que je tiens à partager avec les étudiants en soins qui nous écoutent. Si tu ne sais pas, tu te tais et tu laisses doucement, mais sûrement, venir l'info à toi. Et cette ligne de conduite, elle est valable aussi pour les autres métiers, puisque ça tombe bien, comme je suis aussi romancier. Je voudrais avoir une pensée pour cette lectrice qui, la semaine dernière, au salon du livre de Paris, Porte de Versailles, alors qu'elle était venue faire la queue longuement, faire dédicacer mon dernier roman, m'a vu lui dire de façon tout à fait ingénue, en désignant son ventre, « C'est mignon, vous êtes venu à deux. » Ce à quoi elle a répondu avec humour et bienveillance, « Non, je suis juste grosse, Baptiste. » Si elle m'entend, qu'elle écrive à France Inter et me donne son adresse, je lui ferai livrer des fleurs. Mais n'oubliez pas, laissez doucement, mais sûrement, venir l'info à soi.
Baptiste Beaulieu, vous n'êtes pas seul, ça m'est arrivé récemment dans le métro, j'ai laissé ma place à une dame, je lui ai dit, vous êtes enceinte, prenez ma place, elle n'était pas du tout enceinte, mais elle l'a pris avec le sourire. Merci beaucoup, Baptiste Beaulieu, on peut retrouver votre chronique Alors voilà sur votre blog, Alors voilà sur le site et l'appli France Inter, ainsi que sur la page Facebook de Grand Main vous fasse. Allez, dans quelques instants, on vous dit comment composer un beau plateau de fromage et nous vous délivrerons quelques recettes. 01 45 24 7000. Searching to find a
suis.
Winston McAneuf interprété Malcolm X.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h46 et nous attendons toutes vos questions sur le fromage, vos recettes au 01 45 24 7000.
Qu'est-ce que vous mettez sur le pain que vous trempez là?
Ah ça? C'est du maroilles.
Du maroilles? Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un fromage que je fais un petit peu fort.
Vous goûtez? Non.
Vous avez tort. Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur.
C'est bon, hein?
Ah, c'est aussi fort une fois à l'intérieur.
C'est pour ça qu'on le trempe dans le café.
Ça adoucit. Ah, il trempe? Non, je préfère pas.
Allez.
C'est bon, hein?
Extrait de Bienvenue chez les Ch'tis. Alors, comment on choisit son fromage, François Robin? Je rappelle que vous êtes meilleur ouvrier de France en crèmerie, fromagerie. On se rend plutôt chez un crémier, fromager?
Si on a la chance et la possibilité de le faire, oui, bien sûr.
Pourquoi?
Parce que il y a des affinages qui sont maîtrisés et un conseil personnalisé. En fonction de ce que vous voulez faire, des goûts, vous aurez le meilleur conseil chez des professionnels. C'est comme pour tout, quoi.
Comment on fait au supermarché?
On peut se baser sur les AOP qui sont qui donnent un certain standard.
Appellation d'origine protégée.
Ouais, protégée. Qui donne un certain standard. Et après, si on veut faire une sélection, un plateau, il faut avoir un choix qui soit à même de convenir à tout le monde. Donc, si on ratisse large, ça devrait aller mieux.
Pauline Baudin, du blog Say Cheese.
Alors effectivement, même conseil, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance d'habiter à côté de fromagers et crémiers, et donc il reste les supermarchés. Privilégier toujours le rayon coupe des supermarchés, et souvent il y a un petit corner local qui travaille avec des producteurs en direct, donc n'hésitez pas.
Laurie nous dit j'adore le fromage mais je suis devenue végétarienne et je me questionne sur les fromages. Comment est produite la présure animale, François Robin?
La présure animale est produite par macération de la caillette, qui est le quatrième estomac des ruminants, des petits ruminants. Ça implique effectivement que le petit soit soit mort, hein, bien évidemment, mais on ne tue pas pour ça. La présure existe depuis au moins 10 000 ans, on l'utilise et elle est très efficace pour avoir des goûts très stables sur les affinages très longs. Il existe deux alternatives pour les végétariens, c'est quand c'est marqué présure, ça veut dire que c'est obligatoirement animal, sinon quand c'est marqué agent coagulant, ça peut être d'origine synthétique, c'est des bactéries ou des champignons qui sont génétiquement modifiés, et la troisième option, c'est des coagulants végétaux, voilà, et ce sera marqué sur l'étiquette.
Léonie nous demande sur notre page Facebook, le fromage peut-il être encore considéré comme un aliment durable pour notre planète? Doit-on différencier l'impact d'un fromage de vache et celui d'une brebis ou d'une chèvre?
Pour moi, oui. En tout cas, plus que la viande. Voilà, clairement. On est sur une ressource renouvelable. Si c'est fait dans des conditions correctes, il n'y a pas de raison que ça ait un impact trop négatif. Il vaut mieux essayer de tirer l'ensemble vers le haut. Mais oui, c'est compatible.
Alors, les véganes se tournent vers des faux fromages. Ça s'appelle le fromage, souvent fabriqué avec des noix de cajou. Vous avez déjà goûté ça, Daniel Jerkens,
oui.
De Elle à table?
Alors, j'en ai déjà goûté. Moi, je goûte de tout. Hein. J'ai fait un ragoût de fromage sec au piment. Au Bhoutan, je fais des fromages. Alors, j'ai mangé des très bons fromages et j'en ai mangé d'ignobles. Disons qu'un fromage, c'est effectivement une base neutre, donc la noix de cajou trempée longuement, mixée très très finement, dans laquelle ils rajoutent du sel, des épices, toutes sortes d'éléments, parfois un peu d'ail, etc., pour donner un peu de goût. Je dirais que ça peut se rapprocher, dans le meilleur des cas, de certains fromages esprit un peu, peut-être, une sorte de Saint-Moray, dans lequel on aurait incorporé des épices. Voilà, ça correspond à peu près à ça.
Comment reconnaître un mauvais fromage, François Robin?
Oh là là, mauvais, c'est un terme relatif, ça dépend pour qui?
Pour vous qui êtes le meilleur ouvrier de France.
Oui, mais je n'incarne pas le bon goût.
Non, bien sûr.
Chaque goût est différent. Si on reconnaît les fromages avec défauts, des défauts d'aspect, c'est à peu près instinctif, hein, on le voit bien. Les fromages vraiment mauvais, c'est des fromages qui vont être un petit peu trop humides et où on voit des couleurs un peu spéciales. Là, on peut penser qu'il va y avoir beaucoup trop d'amertume. L'amertume en général, c'est pas un bon signe.
Ou trop d'ammoniac, il y a des fromages qui piquent.
Oui, tout à fait. Alors, mais parfois, il suffit de les aérer un petit moment, de les retourner, de les ventiler, une petite chirurgie respiratoire, enfin, voilà, un petit sauvetage. Et derrière, on peut faire quelque chose de bien.
Comment on reconnaît les pseudo-fromagers? Vous en parlez dans votre ouvrage, Le fromage pour les nuls.
Ah oui, c'est des gens qui sévissent sur les marchés, contre lesquels j'ai une dent féroce. Ils ont pas de vitrine, ils pratiquent des prix incroyables. Ils vont vous vendre du comté de 12 mois d'affinage à 50 euros le kilo. Alors, les prix sont libres, hein, ils ont le droit de le faire, mais leurs étiquettes ne sont pas aux normes. Hein, c'est marqué sur un bout d'ardoise qui traîne, et ils n'ont pas de vitrine réfrigérée. Donc ça, déjà, c'est deux indices suffisants, avec des prix très élevés. Un troisième indice pour vous dire, quand je vois quelqu'un comme ça, je fais demi-tour, je vais chez des vrais professionnels.
Comment on compose un joli plateau de fromage, François Robin?
Eh bien,
quelles sont les règles de base?
Il y a des règles qui disent qu'il faut un nombre impair, mais bon, on peut s'affranchir de ces règles-là. Ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que tout le monde ait satisfaction. On doit prendre différents types de lait, chèvre, vache, brebis, différents types de textures, du crémeux à du plus friable et sec, un petit peu cassant, et puis du doux à l'intense. Voilà, si on mixe ces trois paramètres-là, en général, on a un bon plateau.
Question essentielle, on sort son fromage du frigo combien de temps à l'avance?
Alors, ça dépend, il faut une grille avec un temps pour chaque fromage. Donc, des fois, c'est 22 minutes, 21 minutes, 20... Non. Une bonne demi-heure avant, ça va. Une heure maxi, mais non, une demi-heure. Certains vont être trop chauds après.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Dans votre livre, ce qui est vraiment utile aussi, vous expliquez comment découper le fromage selon les types de fromage et leur forme.
Ça peut causer de graves impairs.
Tout à fait. Ça peut se terminer en drame. Hein, ça c'est vu. Hein. Alors la seule règle qu'il faut retenir, c'est essayer de faire en sorte que tout le monde ait du cœur et du croûtage sur le fromage. Et après, adapter sa coupe à ça. Il y a quelques schémas qui sont un petit peu utiles, effectivement.
Pauline Baudin.
Moi, pour éviter tout problème justement entre la poire et le dessert
tout
autour de
gate.
Ça. Voilà. Je propose à mes invités souvent des petites planches individuelles de fromage déjà découpées avec un parcours de dégustation du plus fort vers le moins fort qui font leurs petits effets.
Un auditeur nous dit un repas sans fromage est comme un baiser sans moustache. C'est un peu votre cas, Claude Guibal. Vous êtes grande reporter au service international de Radio France et vous me disiez hors antenne dans les couloirs que quand vous étiez en Égypte,
Oui, j'ai passé 15 ans, oui, parce que je suis fromage au fil et hélas, mon tour de taille est là pour en témoigner.
Non, pas du
et
tout.
En Égypte, oui, j'ai vécu 15 ans, il a fallu trouver des moyens de substitution ou en tout cas des stratégies de satisfaction. Donc, je ramenais du fromage avec moi dans mes valises, mais quand je dis je ramenais du fromage avec moi dans les valises, ça pouvait être 10 kilos, quelque chose comme ça et tout. Et alors là, je faisais attention, préparer le défibrillateur, parce que je crois que François Robin va pas s'en remettre, mais comment on fait pour conserver du fromage dans ces pays-là? Ben, il faut le congeler. Donc, j'ai acheté un congélateur spécial pour congeler le fromage. Donc, ça, c'est un avis à tous les auditeurs de France Inter à l'étranger. Ils sont nombreux. Beaucoup de fromage se congèle. Alors, c'est compliqué avec le lait cru, mais les
chèvres frais, tout ça.
Les chèvres frais, tout ça, c'est pas génial. Donc, ça, il faut les consommer, mais c'est pas très difficile. Moi, j'ai élevé comme ça une petite fille au 5 hectares. Et donc, tout le reste se congèle très bien à condition de décongeler au frigo. Voilà, de congeler à point quand le fromage est à point et de décongeler au frigo.
François Robin, mon petit cœur saigne. Merci moi, Claude Guibal pour ce témoignage.
Et ça se ramène aussi en reportage. Hein, aussi. Et sachez que quand on part en reportage, on en amène souvent
petit
à des
conseil,
gens.
Par exemple, une route 5 hectares, coupez-la en 4, filmez bien serré dans du film plastique et ensuite congelé.
Mon petit cœur ressaigne. J'aimerais quand même avoir quelques recettes à base de fromage. Daniel Gerken, j'en ai repéré quelques-unes dans le L à table.
Lesquelles?
Ah ben j'ai repéré la quesadillas au 5 hectares.
Ah ben ça elle est sublime, elle est absolument sublime. Notre idée dans ce numéro qui est actuellement en vente, c'était de décaler un peu les recettes. Donc effectivement la quesadillas au 5 hectares.
Allez-y.
Alors vous prenez des tortillas, jusque là c'est très simple, vous les faites légèrement griller et vous les farcissez à l'intérieur avec un guacamole, du jus de citron vert, des blancs de poulet sautés, saupoudrés de paprika et cumin coupé en petits morceaux et juste poêlé, et vous rajoutez des tranches de Saint-Nectaire, vous pouvez retirer la croûte, c'est autorisé. Vous les répartissez sur les tortillas déjà farcies, vous mettez une deuxième, vous refaites griller un tout petit peu et vous servez ça et normalement vos amis meurent de bonne heure.
Et il y a une recette que les enfants pourraient adorer, c'est les frites de polenta au comté.
Oui, parce qu'en fait la polenta permet, lorsqu'on la prépare, vous la faites cuire, vous la moulez entre guillemets dans un plat rectangulaire, vous laissez refroidir, ensuite vous coupez en morceaux et vous les mouillez, vous les huilez un petit peu, vous pouvez soit les mettre au four, et si vous faites fondre un petit peu de comté dans votre polenta au départ, ça va vous donner une saveur légèrement fruitée qui va être absolument divine.
Une recette, François Robin?
Alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est vraiment de saison. C'est un pain au levain légèrement toasté, du caillé de chèvre ou un chèvre frais et de l'ail nouveau. Sel, poivre, huile d'olive de Nyons, et ça suffit. Mais l'ail nouveau, c'est magnifique.
Pauline Baudin, une recette?
Toute simple, des brocolis au four avec un très vieux parmesan et des noisettes. Délicieux.
Moi, j'ai une recette. J'aime bien les muffins anglais. Pour des muffins anglais bio, coupés en deux, légèrement beurrés, posez dessus des tranches de chabichou, évidemment au lait cru, un peu de miel d'acacia, quelques graines de moutarde et de coriandre moulu, sous le grill 3 minutes, et avec une salade de mâche, ça passe très bien, François Robin.
Oui, c'est bien, on y va.
Son petit cœur ne saigne plus.
Oui, alors, beaucoup de questions sur le bio. Est-ce que les fromages bio sont meilleurs que les fromages non bio?
Alors gustativement, absolument pas. De toute façon, c'est pas l'argument du bio. Hein. Le bio n'est pas là pour dire que le produit est meilleur. Il est pour il a un impact moins important sur l'environnement. Il est en composition présumée plus sain. Moi, je suis convaincu du bio. Hein. Mais par contre, en fromage bio, pas forcément. En termes de goût, je parle en termes de goût. Ouais.
Monsieur Baptiste Beaulieu, on a des questions sur le fait de donner du fromage au lait cru aux enfants. À partir de quel âge on peut leur en donner?
On en parlait tout à l'heure avec vos invités. On a convenu qu'a priori, avant 3 ans, c'est pas forcément une bonne idée. Les croûtes non plus.
Vous confirmez, François Robin?
Oui, alors il y en a plein qui le font. Hein, moi-même, je donne un petit peu de fromage au lait cru à ma fille qui a 2 ans et demi. Voilà.
Et elle va bien.
Elle va bien. Mais sans la croûte, effectivement.
Ouais. Pauline Baudin.
Oui, pareil. Hein, moi, mon fils a 14 mois et a déjà goûté plusieurs fois du Roquefort.
Et tout va bien.
Et en pleine forme.
Et la mienne a commencé à 1 an et elle va très bien.
Pour terminer, peut-être aller un fromager que vous affectionnez. Allez, François Robin.
Puisqu'on est à Paris, aller dans le 12e.
Enfin, vous êtes à Paris, il y a nos auditeurs qui sont ailleurs aussi.
C'est vrai. Mais je vais rester à Lyon, aller sous les Alpes Paul Bocuse alors. Ouais. Voilà. Il y a plusieurs fromagers, c'est très intéressant.
Pauline Baudin.
Alors, un fromager affineur en Auvergne qui s'appelle Jérôme Souchal et qui fait des 5 hectares qui sont les meilleurs que j'ai jamais dégustés.
Rappelez son nom.
Jérôme Souchal.
Daniel Jerkens.
Alors moi, j'ai découvert récemment à Coutances un fromager qui s'appelle Si le camembert m'était compté, qui a été monté par un très jeune, il doit avoir 19-20 ans, et qui a des sélections vraiment intéressantes.
Merci à tous d'être venus, on refera d'autres émissions sur le fromage, notamment les fromages du monde entier. On peut lire avec profit votre fromage pour les nuls, François Robin, c'est publié chez First. Merci Pauline Baudin, votre blog c'est Say Cheese. Merci Danette Jerkens, le tout nouveau numéro de Elle à table est disponible en kiosque avec une photo qui donne vraiment faim à la une. Demain, comment expliquer l'épidémie de narcissisme? Que se passe-t-il vraiment dans la tête des personnalités narcissiques? Nous recevrons la psychiatre Marie-France Irigoyen, 01 45 24 7000.